Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse de ce soir. Deux thèmes sont au menu comme d'habitude. Nous commencerons par le système fiscal appliqué en RDC qui tue l'entreprise locale et pousse à l'informel en favorisant la contrebande. La déclaration est du président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, l'a dit la semaine dernière au cours de l'Assemblée générale ordinaire du patronat congolais tenue à Kinshasa. Ensuite, nous parlerons des 176 organisations de la société civile et mouvements citoyens qui disent non à un troisième mandat pour le président Joseph Kabila et non à la modification de la Constitution. Eux l'ont fait savoir lundi dernier dans une déclaration commune. Ces organisations dénonçaient qu'elles qualifient rhétorique de la majorité présidentielle, appelant l'actuel chef de l'État à briguer un troisième mandat lors de la présidentielle du 23 décembre prochain. Pour commenter cette actualité, je reçois José Boto. Bonsoir, cher confrère.
Bonsoir, Alain Irung.
Vous êtes journaliste indépendant. Nico Faimbikaï. Bonsoir, cher confrère.
Bonsoir, Alain.
Vous êtes journaliste collaborateur au groupe de presse Le Monde et Top Média, paraissant à Kinshasa. Baba Isaac Alongi, bonsoir.
Bonsoir, mon ami.
Oui, vous êtes journaliste indépendant, basé en Bujima et au Kasaï Oriental. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Nous allons commencer par voir comment l'actualité de la semaine a été analysée par la presse kinoise dans cette revue de presse que nous présente Donna Madimba.
Élections et stabilité de la République démocratique du Congo, ultime rencontre à Luanda autour de Lorenzo. C'est le titre à la une du quotidien Le Potentiel. Après le sommet de la double troïka des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, écrit le journal, retour dans la capitale angolaise le 17 juin pour une ultime rencontre sur la situation de crise qui prévaut en RDC. Le Potentiel précise que le président João Lorenzo attend ses pairs de la région, dont Joseph Kabila, Paul Kagame, Denis Sassou Nguesso et Cyril Ramaphosa. L'heure de vérité a enfin sonné pour une alternance démocratique en RDC, conclut le quotidien. Sur la RDC toujours, la tempête des tropiques rapporte le premier face-à-face Zerugi Sassou mercredi à Brazzaville. Ce journal fait savoir que la chef de la MONUSCO a profité de sa participation à la 46e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions sécuritaires pour évoquer avec les autorités au sommet du Congo-Brazzaville la situation politique et sécuritaire en RDC. Processus électoral, le journal L'Avenir titre à sa une « Enrôlement des Congolais de l'étranger ». Corneille Nangaa attendu à l'Assemblée nationale. Mercredi, en effet, les députés nationaux ont débuté leurs travaux relatifs à l'examen et adoption des deux nouvelles propositions de loi modifiant le processus électoral, précisément en rapport avec l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Sur ce même sujet, La Prospérité écrit « Exclusion des Congolais de l'étranger, Corneille Nangaa convoqué au Parlement pour la tempête des tropiques. Aubin Minaku pousse Corneille Nangaa à exclure les Congolais de l'étranger. Et pour ce faire, écrit le quotidien, le président de l'Assemblée nationale invite le président de la CENI à déclarer l'incapacité de cette institution à enrôler les Congolais de l'étranger. Sur un autre sujet, l'agence congolaise de presse titre à sa une, la chambre d'appel de la CPI se prononcera ce vendredi sur le verdict et la peine dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'équipe pays des Nations Unies, Joseph Makamba, mercredi à Kinshasa, au cours de la conférence de presse bimensuelle, indique l'agence congolaise de presse. Forum des As de son côté, titre à sa une, en attendant le verdict de ce vendredi à La Haye, Bemba, le MLC implore la grâce des dieux au MLC, écrit Forum des As. Le président de la fédération de Kinshasa a organisé une veillée de prière au siège du parti, avenue du Port. Santé pour terminer, actualité.cd, titre à sa une, RDC Équateur, 300 000 personnes déjà sensibilisées contre Ebola. Dans ces campagnes de sensibilisation contre la propagation de l'épidémie à virus Ebola, écrit ce média en ligne, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dit avoir atteint ces chiffres. Pour ce média en ligne, ces campagnes visent à atteindre plus de 800 000 personnes dans des zones affectées à travers les informations sur la protection contre l'épidémie d'Ebola.
Merci Donna Madimba. En dehors des sujets que nous abordons ce soir, quel est celui qui a retenu votre attention et que vous souhaitez librement commenter? José Boto, vous êtes journaliste indépendant.
Merci beaucoup pour la parole, Alain, et merci de l'invitation pour commenter les faits marquants de l'actualité de cette semaine. Alors, l'actualité qui a retenu mon attention, c'est toujours, cette maladie à virus Ebola qui sévit dans la province de l'Équateur, dans la ville de Mbandaka et surtout dans le territoire de Bikoro, un territoire dont je suis originaire. Donc j'ai des informations fraîches venant de là. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, beaucoup de non-dits en fait, par rapport à l'info qu'on nous donne de manière officielle. Alain, je vous informe par exemple qu'il y a 2 ou 3 jours, il y a un décès à Londolo Tema, c'est un village de ma mère d'ailleurs. Et il y a quelqu'un qui est mort là-bas et probablement il doit être mort probablement de ce virus à Ebola. Mais quand le...
Ça reste à être confirmé par les services spécialisés.
Tout à fait, mais bon, tout porte à croire que la personne serait morte de ces virus-là. Hein, de ces virus-là. Parce qu'on entend parler de... Ok, on a sensibilisé, j'ai suivi même la revue de presse de Donan Madimba tout à l'heure, on a sensibilisé 300 000 personnes, mais quelle personne a sensibilisé? Au niveau des Bikoro là-bas, je vous dis, d'abord il y a un problème d'accès dans nos villages là-bas. Les routes sont en très mauvais état. La route Manara-Bikoro, d'abord, c'est dans un très mauvais état. Vous savez, 128 km, c'est un peu comme Kinshasa qui sent tout. Mais là, c'est on dit des hélicoptères pour arriver à Mbandara, pour arriver à Itibo, pour arriver à Iboko. Alors, en Pangi, comment on va arriver? À Ikokoimpe, comment on va arriver? Alors, tous ces gens-là, Alain, sont aujourd'hui, je vous dis, à la merci de cette maladie à virus Ebola.
Bref, la situation reste préoccupante.
Elle est très préoccupante. Et même, j'ai assisté à la question d'actualité. Oui. J'ai assisté à la question d'actualité adressée au ministre de la Santé publique le 30 mai dernier par l'honorable Bafon Samputu Elima, qui est un député élu de Bikoro aussi. La réponse du ministre s'est arrêtée au niveau de ce que j'ai dit là, dans des grands centres peut-être, mais les villages là, il y a un problème aujourd'hui, je ne sais pas s'il y aura élection à Bikoro.
Et donc, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir.
Voilà, beaucoup d'efforts à fournir.
Alors. Nico Faimbika est journaliste collaborateur au groupe de presse Le Monde et Top Média paraissant à Kinshasa. Quel est le sujet que vous souhaitez commenter?
Oui, merci beaucoup Alain pour l'opportunité. Ce qui m'a beaucoup plus marqué ces derniers temps, c'est le fait que, contrairement à ce que les gens pensaient, contrairement au scepticisme de certaines personnes, aujourd'hui, à 197 jours des élections, la CENI, qui est financée par le gouvernement, a accompli beaucoup d'activités qui étaient prévues par le calendrier électoral pour les observateurs avertis. En tout cas, je doute fort qu'il y ait encore à ce jour des hésitations pour la préparation des élections, dans la mesure où toutes les grandes étapes prévues dans le calendrier électoral sont scrupuleusement respectées, comme le gouvernement qui est dirigé de mettre par l'avocat Tshibala finance les élections. Il y a eu enrôlement et on est revenu là où il y a
eu des guerres. Et donc le train est en marche,
s'il vous plaît, rien à dire. C'est très important Alain, parce que moi qui suis sur terrain, il y a certaines personnes qui continuent à faire croire aux gens qu'il n'y aura pas élection. Et qu'on continue, des lois, bien tout à fait, mais c'est un processus. Mais néanmoins, il y a des signaux irréfutables allant dans le sens de la tenue des élections au 23. L'enrôlement des étrangers, c'est un sujet inscrit, nous allons y revenir. Mais néanmoins, aujourd'hui, vous soutenez cela, mais lorsque nous avons posé la question en 2012, vous tenez à ce qu'on enrôle les Congolais de la diaspora. C'est bien beau. Pourquoi en 2006, il n'y a pas eu enrôlement des Congolais de la diaspora? Pourquoi en 2011, il n'y a pas eu enrôlement des Congolais de la diaspora? Pourquoi seulement lors du deuxième et dernier mandat de Kabila, vous qui vous prétendez opposant, vous avez cherché à ce que ce loi soit inclus dans la loi électorale? À ce jour, c'est une obligation légale. Merci. Le fait par vous de vous entêter, si on allait aux élections avec les mêmes lois et sans les enrôler, mettez-vous en tête que on peut arriver à annuler le scrutin. Si l'on Merci. Arrivait à annuler le scrutin, ça sera au profit de qui?
Merci. Et donc, vous comprenez, chers auditeurs, que quand Nico Faimbikaï parle de vous, il ne parle pas de moi, mais il parle des opposants, bien entendu. Baba Isaac Alongi, journaliste indépendant basé en Bujima au Kassai Oriental, ici à Kinshasa, un autre sujet qui a fait l'actualité, c'est la disparition de l'évangéliste Elisabeth Olangiosho du combat spirituel. En Bujima, où vous êtes, qu'est-ce qui fait l'actualité?
97% des chômeurs dans une province sans emploi. la fin des travaux du stade Kachalabonzola, une actualité qui domine la province parce que tout le monde tourne le regard vers ce stade qui a été construit avec le fonds des patriotes de cette région. Je suis fier de cet ouvrage. Et ça domine l'actualité parce que aujourd'hui, le Popo joue contre Saint-Balin. Et concernant la nation, l'Afrique a la forme du revolver dont la cachette se trouve au Congo, Zaïre. C'est un principe philosophique de Franz Fanon qui veut dire que tous les regards de tous les pays voisins occidentaux et américains sont tournés vers le Congo. Vous devez comprendre pourquoi. Maintenant, j'attends l'alternance. Tout le monde souhaite qu'il y ait la paix. Moi-même, je suis partisan de la paix parce que je suis sur la fréquence de la paix, la radio Kapi.
Merci Baba Isaac Alongi. Cela nous permet d'aborder notre premier thème de ce soir. Le système fiscal appliqué en RDC tue l'entreprise locale et pousse à l'informel en favorisant la contrebande. La déclaration est du président de la Fédération des entreprises du Congo. Albert Yuma l'a dit la semaine dernière au cours de l'Assemblée générale ordinaire du patronat congolais tenue à Kinshasa. Les propos du président de la FEC ont été recueillis par Honoré Misenga Kalala.
La contrebande de café congolais n'est plus un secret pour personne sous les rives du lac Kivu, sépare le Rwanda de la République démocratique du Congo. L'Ouganda attire aussi le café congolais, les deux pays profitant de l'insécurité qui règne dans la région, mais aussi à cause des taxes qu'impose la RDC à l'exportation. Le système fiscal congolais pousse à l'informel. Peu de pays dans le monde pratiquent encore cette fiscalité d'une autre époque selon des modalités indignes d'un pays qui a fait du développement économique son principal axe de développement. Voici un exemple aberrant parmi tant d'autres. Un ministre lui prend l'initiative par un simple arrêté ministériel, alors qu'en matière d'augmentation des droits, taxes et redevances, il faut un arrêté interministériel. Il a pris l'initiative d'augmenter de 360% le droit de trafic des lignes maritimes congolaises qui ne disposent d'aucun navire, et tout cela pour faire tourner une structure qui devrait disparaître.
Dans le même ordre d'idées, le président de la FEC a fustigé la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par un député visant à octroyer au Fonds de promotion de l'industrie FPI les garanties et privilèges du Trésor en matière de recouvrement. L'adoption de cette proposition de loi par le Parlement créerait, d'après Albert Yuma, un autre corps de contrôle qui serait une source de tracasserie pour les industriels. José Boroto, vous êtes journaliste indépendant. Est-ce que vous partagez l'analyse ou le constat du président de la FEC qui dit, que vous l'avez suivi, que le système fiscal appliqué en RDC tue l'entreprise locale et pousse à l'informel en favorisant la contrebande?
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec M. Yuma de la FEC. Lui parle de la contrebande du café sur le lac Kivu. Je vous informe aussi qu'il y a la contrebande du cacao au niveau de la rivière Ubangi. En partant du sud Ubangi, donc, et le sud Ubangi, c'est le territoire des Kungu, je crois, et puis il y a les territoires des Bomongo aussi dans la province de l'Équateur. Donc ces deux territoires-là sont voisins et ils sont en face de Congo-Brazza. Je vous dis, Alain, les cacao congolais de l'ouest, la partie ouest de la RDC, c'est comptabilisé dans l'export du cacao du Congo-Brazza et du Cameroun. Parce que les gens, ils ne font que ça à longueur de journée, traverser avec les cacao. Pourquoi? Parce que ils savent pas payer les taxes, ils savent pas être à même de payer tout ce qu'on leur demande comme taxes. Alors ils coopèrent avec les agents véreux de l'administration fiscale. Là, je cite par exemple les gens de l'OCC, moi j'ai vu des policiers, j'ai été là-bas là. J'ai vu des policiers qui vous demandent des documents du cacao. Un policier peut demander des documents du cacao. Un militaire des FRDC qui demande les documents de force navale, hein, il demande les documents là. Et c'est des choses qui énervent. Alors, dans notre pays, on veut une chose et son contraire. Ailleurs, dans tous d'autres cieux, les exportations, tout ce qui se permet de faire de l'exportation, sont choyées par l'État, parce que ça fait entrer les devises. Un pays, il est riche quand il vend à l'extérieur. Mais du moment que vous, au niveau de la parafiscalité, de la fiscalité, vous étouffez les gens. Comment voulez-vous que l'État ait les devises nécessaires pour la bonne marche de notre économie, Alain?
Au mois de septembre de l'année passée, il y a eu l'organisation d'un forum national sur la réforme du système fiscal en RDC. Mmh. Est-ce que vous en sentez les retombées aujourd'hui?
Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Pour votre information, Alain, par exemple, moi je suis avec des opérateurs économiques, hein, des gens qui font de l'exportation, par exemple. mon frère. Vous savez qu'il y a, tout ce qu'on est en train de... Moi, j'ai un ami qui a même des problèmes au niveau du manque, je ne veux pas citer les noms ici. On a retenu, on ne veut pas lui donner sa licence d'exportation. Il exporte du cacao. Tout simplement parce qu'on lui demande, la banque lui demande de mettre dans son compte bancaire l'équivalent de 50% de l'argent de la transaction qu'il fait là, du cacao là. Alors qu'on sait quand on exporte FOB, c'est quand le monsieur reçoit les BL que sa marchandise est dans le bateau, qui fait les transferts d'argent. Mais cet ami là, où est-ce qu'il va avoir l'argent? Je donne un exemple, 25 tonnes de cacao, c'est dans les 50 000 $ à peu près. Je donne un exemple, le bas mot, quoi, peut-être 50 000 $. Mais il va avoir 25 000 $ alors que l'opération n'est même pas encore faite. Vous comprenez? Tout ça, ce sont des mesures qu'on met pour... Oh non, c'est pour garantir que vous allez rapatrier les devises, mon frère. Non, on veut une chose au contraire dans notre pays.
Nico Faimbika est journaliste et collaborateur au groupe de presse Le Monde et Top Média paraissant à Kinshasa dans une des émissions sur Radio Okapi avec l'ancien gouverneur Jean Bamanissa. Il avait décrié qu'il y aurait plus de 800 taxes.
Oui, là, nous devons tous nous accorder qu'au Congo, il y a un problème sérieux de multiplicité des taxes. D'ailleurs, il y a un principe qui dit trop d'impôts tue l'impôt. À ces jours, vous allez constater que après une monographie menée par moi, presque toutes les parcelles de Kinshasa accusent beaucoup de dettes vis-à-vis de la SNEL et de la Régie des eaux. La cause, c'est quoi? Aujourd'hui, la moyenne de facture de la Régie des eaux, c'est 80 000 francs congolais pour une parcelle. Mais est-ce que le revenu, ce que les gens ont comme revenu, peuvent pousser ces derniers à arriver à payer ne serait-ce que pour l'eau 80 000 francs? Aujourd'hui, toutes les parcelles accusent la moyenne d'au moins 1 200 francs congolais par parcelle vis-à-vis de la Régie des eaux. La cause, c'est quoi? Lorsque la Régie des eaux dépose une facture de 80 000 francs, les ménages ne sont pas à mesure de payer cette facture. Maintenant, ils contournent la Régie, ils s'arrangent avec les agents qui sont déployés sur le terrain en leur émettant 5 000, 6 000, 7 000 francs congolais.
Croyant résoudre le problème.
Le problème reste entier, les agents se retrouvent, mais la SNEL ou bien la Régie des eaux, ce sont eux qui sont préjudiciés. Et entre-temps, les dettes ne font que s'accumuler et beaucoup d'argent ne rentre pas dans les caisses de la Régie et de la Régie des eaux. C'est ainsi que moi je pense qu'au lieu que de taxer trop fort, vaut mieux taxer de manière raisonnable pour que les clients ou bien les consommateurs soient motivés à payer. Mais si vous surtaxez en ce moment-là, les gens vont se contenter de s'arranger avec les agents.
Mais Nico Faimbika, il y a eu plusieurs ateliers sur la fiscalité, je venais d'en parler, sur la lutte contre la corruption. Mais pourquoi les choses ne semblent pas changer?
Alain, le problème ne va pas trouver solution dans les forums, dans les symposiums, dans les séminaires. C'est un problème qui cherche des solutions simples. La SNEL, par exemple, dans la ville de Kinshasa, si l'on arrivait peut-être à se dire, pour toute famille domestique, la facturation tourne autour de 12 000 francs congolais. Beaucoup vont s'acquitter. J'estime qu'il n'y aura pas de dette. La Régie des eaux, on s'est dit 10 000 francs par parcelle. Je pense pas que les consommateurs vont chercher à s'arranger avec les agents. Par exemple, lorsque la TVA aussi, votre TVA est trop élevée. Au pays du soleil levant, la TVA est de 4%. Mais pas surtout, tout pas par beaucoup. Il y a certains produits ou sur lesquels l'État ne peut pas taxer. Il faut que l'État arrive pour que au lieu que le consommateur donne l'argent aux agents, que l'argent aille dans la caisse. Et aussi, au parquet et les administrations publiques, c'est là qu'il y a une forte dose de la concussion et de la corruption. Allez voir le train de vue des magistrats par rapport à ce qui touche, c'est-à-dire les amendes qui sont payées dans le box de magistrats. Merci. Est-ce que cet argent entre dans la caisse de l'État?
Merci.
Et Je peux continuer?
Souffrez que je vous arrête à ce niveau, cher confrère, je reviens.
Oui, j'ai fini par les 30 secondes. Il y a aussi le rapport de Greenpeace. Le rapport de Greenpeace qui avait dit plus de 90% du bois congolais sort par de voies frauduleuses.
Voilà, c'est presque ce que José Boto a aussi dit. Baba Isaac Alongi, vous êtes journaliste indépendant basé en Mbujima et au Kassai Oriental. Il y a des taxes qu'il faut payer au niveau national, au niveau des provinces, au niveau des entités territoriales décentralisées, déconcentrées. Tout ça, ça fait un peu trop. Quelle est la réalité que vous vivez en Mbujima où vous vous trouvez?
Cher ami Hirou, je vous apprends que les taxes, les redevances, les impôts sont des frais dus à l'entité, ville, province et même la nation. Quand c'est mal géré, cet argent ne peut pas trouver solution aux problèmes qui se posent localement aux ressortissants du coin. Cependant, si l'État congolais, comme le président de la République l'avait déclaré en 2006, il a dit qu'il avait besoin de 15 oiseaux rares pour relancer le pays et assurer la bonne gouvernance. La population, les entrepreneurs, les ressortissants du coin qui payent ces taxes attendent de l'État congolais un travail palpable, visible, sur le terrain. Et dès lors qu'il n'y a aucun travail, aucune réalisation, ceux qui payent s'abstiennent. Et lorsque l'Assemblée nationale ou les assemblées provinciales se réunissent pour dire « majorons le paiement de ces taxes et redevances, majorons les impôts pour avoir beaucoup d'argent ». Mais beaucoup d'argent pour quoi faire? C'est ça la difficulté que nous avons. Donc tout dépend de la gouvernance qui sera mise en place par l'autorité pour que chaque montant versé dans le compte du trésor public serve d'abord, de prime abord, les ressortissants du coin qui ont payé cette taxe, cette redevance et cet impôt. Dès lors qu'il n'y a rien qui est fait pour eux, ils s'abstiennent. Ils contournent la voie, ils font tout pour que l'argent n'aille pas au trésor public.
Baba Isaac, n'y a-t-il pas également un problème de culture fiscale par rapport à notre nation? Ne faudrait-il pas insérer, par exemple, ces notions déjà à l'école primaire?
Non, il y a un problème. Lorsqu'il n'y a pas de culture fiscale, dans un coin, l'État sensibilise d'abord les partenaires sociaux du coin. L'État fait un travail de titan pour expliquer à sa base tout ce qu'il faut faire pour que l'entité aille de l'avant. Un décollage dépend de ce que les gens versent au compte du trésor public, le décollage de toute entité, quelle qu'elle soit. Donc si ce qui a été versé dans le trésor n'a rien produit comme effet, c'est-à-dire en retour, comme un travail fait sur le terrain, il y a désistement, il y a même refus, il y a contournement, il y a même les gens qui refusent de payer carrément. Donc en ce moment-là, que l'État prenne son courage pour sensibiliser la base, de sorte que là où il n'y a pas de culture fiscale, que tout le monde comprenne que sans leur 1 franc versé au trésor, l'entité ne peut pas fonctionner, les dirigeants qui sont au pouvoir ne peuvent pas tourner, donc rien ne peut être fait en faveur de la base.
Voilà, nous allons brièvement passer à ce tour de table pour aborder le deuxième thème. José Boto, avoir une culture fiscale, c'est bien, mais que fait l'État de cet argent? C'est mieux aussi, sinon ça décourage.
Ça décourage énormément. Et Alain, moi je voulais même dire que je suis même en train de mettre en doute le classement des doing business sur le Congo, quand il s'agit de l'amélioration du climat des affaires. Parce que ce qu'on voit concrètement, notre pays devait être peut-être le dernier de tous les pays du monde en termes de la fiscalité, quoi, de la gestion de tout ce qui est fiscal. Et vous savez, il y a des amis, il y a des gens qui veulent, par exemple, même les trucs des vignettes ici. Il y a des gens qui refusent de payer ces vignettes parce qu'ils se disent, ils ne voient pas ce que cet argent-là fait. Et ça aussi, c'est un autre problème. Parce que je n'ai rien contre les fonctionnaires de l'État. J'ai des parents qui sont fonctionnaires de l'État, mais bon. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le Congo aujourd'hui est malade de son administration? C'est ça la grande question. Parce que l'administration, les gens, ils ne sont pas bien payés. Or, il y a l'instinct de survie qui est là pour chaque être humain. Donc, chacun doit s'arranger pour trouver son compte dans ce qu'il fait. Même s'il m'a... Et tout ça, c'est au détriment de la grande masse, au détriment de tout le monde. Voilà.
Nico Faimbikai, brièvement, a-t-on un problème d'homme ou de texte?
Nous, au Congo, nous avons un problème d'hommes. Les Congolais doivent être déprogrammés, puis reprogrammés.
Formatés.
Et aussi, il faudrait, vu le TACA tel la malhonnêteté, sans l'instauration de la semi-charia au Congo, je ne pense pas que les choses peuvent changer.
Ce n'est pas trop fort parler de la charia.
Non.
Qu'est-ce que vous entendez par
la semi-charia? C'est lorsque, par exemple, on découvre qu'un agent public a eu à détourner, a se faire corrompre, la main qui a perçu cet argent-là, on fait appel aux gens au stade, on l'ampute, cela va donner des leçons.
Et donc vous voulez parler de sanctions positives et négatives.
Écoutez, la semi-charia est différente de nos lois que nous avons aujourd'hui. Ici, quelqu'un qui vole, on va vous dire prouver qu'il a volé, toute une procédure là, après il va s'arranger avec le juge et puis on la quitte. Et en plus, je ne suis pas d'accord avec José lorsqu'il dit que le rapport de Doing, il a fait nous serions les derniers. Mais c'est lui qui dit que nous serions les derniers. Sur la base de quoi? Et on établit ce rapport sur la base des données. En plus, vous dites que non, il y a des gens qui refusent de payer la vignette. Dans quel pays du monde où quelqu'un peut s'opposer à payer l'impôt?
Mais
la vignette, c'est un impôt.
Quand les routes sont à l'état de délabrement très
avancé, Alain,
alors que les vignettes sont payées.
S'il vous plaît, Alain, nous devons ici faire de la pédagogie. Il y a une différence entre impôt et taxe. L'impôt, c'est une prestation pécuniaire obligatoire, annuel, définitif, sans contrepartie visible. Lorsque vous payez l'impôt, ne demandez pas à l'État de vous dire ce qu'il fait avec votre impôt. A contrario, lorsque monsieur paye la taxe, en ce moment-là, il est en droit de demander à l'État. L'impôt, vous ne pouvez jamais demander la contrepartie visible lorsque vous payez l'impôt. C'est une prestation obligatoire sans contrepartie visible.
La vignette,
c'est un impôt.
Voilà, ne nous perdons pas dans ces considérations. La Baba Isaac.
Non, c'est très important.
Voilà, je ne le nie pas. Baba Isaac Alogi, pour clôturer ce thème, pour vous, a-t-on un problème d'homme ou de texte? Nico Faimbikai pense qu'on a un problème d'homme.
Problème d'homme de part et d'autre. Les gestionnaires de l'État et les membres de la société qui doivent à l'État les taxes, les redevances. Il faut que les uns et les autres prennent conscience que le pays nous appartient et faisons tout dans la recherche de la paix et que ceux qui doivent s'acquitter de leurs devoirs s'acquittent et que ceux qui reçoivent l'argent venant des contribuables l'utilisent rationnellement. Donc ici, c'est un problème des uns et des autres. C'est pas un problème. Même moi-même, je suis concerné. Donc il faut que nous tous nous battions pour que nous comprenions que nous avons affaire à la lutte pour l'émergence de notre pays. C'est pas une affaire d'un individu. Donc les hommes du pouvoir et les hommes de la société, de la communauté, dans toutes ses diversités, doivent se battre pour comprendre l'intérêt qu'il y a à payer les impôts, à payer les taxes et redevances, à donner l'argent au trésor public pour que ceux qui sont au gouvernement puissent avoir l'outil de travail servir la communauté tout entière. Donc, c'est le problème d'homme de part et d'autre.
Merci Baba Isaac Alongi. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Non à un troisième mandat pour le président Joseph Kabila et non à la modification de la Constitution. L'appel est lancé par 176 organisations de la société civile et mouvements citoyens. Ils l'ont fait savoir lundi dernier dans une déclaration commune au siège de l'ONG à Cage. Ces organisations dénoncent ce qu'elles qualifient rhétorique de la majorité présidentielle, appelant l'actuel chef de l'État à briguer un troisième mandat lors de la présidentielle du 23 décembre prochain. On écoute leur porte-parole, Maître Georges Kapiamba, au micro de Richard Junior Kamunga.
Nous condamnons la rhétorique et les appels des cadres de la majorité présidentielle à la candidature du président Joseph Kabila pour un troisième mandat et la révision de la Constitution en violation des dispositions des articles 70 et 220 de cette dernière et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous disons non à un troisième mandat pour le président Joseph Kabila, non à la modification de la Constitution, oui à la tenue d'élections crédibles, transparentes, honnêtes et inclusives conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, oui à l'ouverture de l'espace des libertés publiques et la libération des prisonniers politiques. Ces appels, ainsi que les affiches de campagne pour le président Kabila que nous voyons de plus en plus à travers le pays, étalent sans l'ombre d'un doute la volonté, longtemps niée, du président Joseph Kabila de faire tout ce qui est possible pour se maintenir au pouvoir en violation de notre Constitution.
Nico Faimbika, journaliste collaborateur au groupe de presse Le Monde et Top Média paraissant à Kinshasa. Qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue de ces organisations de la société civile?
Oui, Alain, nous sommes dans un pays où chacun peut émettre son point de vue. C'est de leurs droits les plus légitimes. Mais là où je n'arrive pas à comprendre, qu'est-ce que Akaj et les autres opposants des ONG entendent par élection inclusive? Attention, c'est très dangereux. Lorsqu'on commence encore avec cette chanson d'élection inclusive, ça risque encore de nous amener en des situations de tension. Qui est-ce qu'on a exclu? Lorsqu'on parle des élections inclusives, je dis, qui est-ce qu'on a exclu?
Avant d'arriver aux élections inclusives, ils disent d'abord non à un troisième mandat pour Joseph Kabila.
Vous savez, vous êtes dans un pays où les gens font tuer les gens au nom de la démocratie et de l'état des droits.
Et vous êtes
mais
ailleurs.
Mais je me rends compte que vous êtes anti-démocratie et anti-état des droits. Qui a la latitude au Congo d'imposer son point de vue à l'autre? La démocratie quid, c'est la dictature de la majorité. À ce jour, est-ce que nous pouvons parler du troisième mandat? Je me dis, par quel mécanisme? Il nous reste 197 jours. Pour que Kabila ait un troisième mandat, il faut nécessairement avoir le référendum. Mais par quel mécanisme?
Et donc
par
le temps qui court. Vous pensez qu'ils enfoncent une porte ouverte?
Écoutez, ce sont ces gens-là qui ont toujours ouvert des brèches pour la majorité. Voilà, nous en sommes rattrapés par nos propres turpitudes d'hier. On a dit aussi, nous voulons aller, il faut qu'on enrôle les Congolais de la diaspora, ils sont plus de 8 millions, ils doivent participer des Congolais, sans avoir visé loin. Mais nous qui avons l'œil de l'aigle, qui avons vu au-delà de l'Himalaya, j'avais attiré la sonnette d'alarme. Est-ce que vous calculez l'ampleur, est-ce que vous mesurez l'ampleur, la gravité de ce que vous cherchez là? Lorsque vous parlez de la diaspora, peut-être elle n'avait vu que Paris, Washington et Londres. Mais ils ont oublié qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont à Katmandou. Il y a beaucoup de Congolais qui sont à Kuala Lumpur. Vous avez oublié qu'il y a une forte de communauté congolaise à Bangkok. Est-ce qu'ils avaient dans la vie, avant de tirer, il faut calculer. Il ne faut pas tirer avant de calculer. Évitons avec ces sujets. Est-ce que nous préparons les élections? Il faut préparer les élections. Vous avez entendu beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi, je me réjouis que les gouvernements qui est là est en train de vider les prétextes des gens. Figurez-vous, Alain, si, par exemple, les gouvernements en place n'avaient pas financé les élections, par exemple, que la CENI n'avait pas enrôlé, il n'y avait pas la loi électorale, il n'y avait pas la répression des choses, les gens diraient quoi?
Merci.
Mais aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli, on a vidé les prétextes aux
Merci.
Gens, les gouvernements remplissent ces missions correctement, infalliblement, maintenant les gens vont ailleurs.
Merci,
lorsqu'on parle des élections inclusives, attention!
On va y revenir pour votre conclusion. José Boto, journaliste indépendant, vous avez suivi la déclaration des 176 organisations de la société civile. Dans leur déclaration, ils ajoutent qu'il y a des signaux inquiétants enregistrés dans le processus électoral. Il y a la question de l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Il y a cette rhétorique où certains cadres de la majorité appellent le président Kabila à un troisième mandat. Mais la majorité rétorque qu'il y a aussi une rhétorique de l'opposition qui parle d'une transition sans Kabila.
Tout à fait. Vous savez, le problème qu'il y a au Congo, c'est qu'on a affaire à une classe politique qui n'est vraiment pas correcte par rapport à la population. Cette classe politique, c'est un peu le genre de personne qui tire... Enfin, là, on tire la couverture de son côté. Chacun voit juste ses intérêts. Parce que aujourd'hui, quand l'opposition, ou un groupe des organisations de la société civile,
ce sont des gens, ce sont des opposants
Nico qui sont
à moins cher.
Nico Faye Mbeka, retenez-vous. Et José Boto, terminez votre propos.
Et toutes ces ONG là, pro ou anti ou pouvoir, par exemple. Mais c'est pour peut-être à la limite justifier des fonds peut-être qu'ils reçoivent. Parce que moi je ne vois pas. Il y a un principe qui dit, ce qui n'est pas dit n'existe pas. Or, Kabila Joseph ne peut pas être candidat sans sa propre volonté. Moi je vois pas Joseph Kabila en train d'être poussé par tous ceux qui... Moi je vois vous savez la banderole dont on fait allusion là. Il y a une banderole qui est ici au niveau de Delvaux, où on a écrit Kabila notre candidat. Je n'ai vu que ça. Mais ça fait un grand bruit. Oh non, il sera candidat. Mais non, mais... C'est au mois de juillet ici qu'il y aura dépôt de candidature pour la présidentielle.
Donc
c'est
il faudrait qu'on attende.
Mais il faut qu'on attende de voir. Attendons de voir. Parce que faut pas. Moi je crois que c'est que j'ai vu. Or, je n'ai jamais entendu Kabila dire qu'il sera candidat. Attendons de voir.
Accordons-lui le bénéfice du doute.
Qu'on accorde le bénéfice du doute. Et que ces ONG-là se concentrent sur autre chose. Voilà. Et alors quand ces ONG-là parlent maintenant, je vois aussi. Quand ils parlent d'une transition à Kabila, c'est sur base de quoi là? La constitution sur base de quoi? Sur base de... Je ne sais pas.
C'était un putsch.
Mon frère, juste que... Non, j'ai plus besoin...
Allez-y, on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, le problème est que, attendons déjà le train en marche, qu'on arrête avec toutes ces distractions, qu'on aille droit au but, qu'on sensibilise déjà sur les élections. Il y a aujourd'hui la problématique de la machine à voter. Il y a des gens qui disent la machine à tricher pour l'opposition et la machine à voter pour les autres. Mais qu'on se concentre sur ces problèmes, sur la sensibilisation,
sur les problèmes essentiels.
Sur les problèmes essentiels, quoi. Alors, l'essentiel, ça, c'est de la distraction, Alain.
Baba Isaac Alongi, journaliste indépendant basé à Mbujima et au Kassai Oriental. Quelle analyse vous faites de ce contexte qui semble presque un peu chaotique et qui fait dire à beaucoup qu'on s'est loin d'un processus électoral apaisé.
Confrère Aaron, je vous dis que présentement, je reviens à France Fanon pour vous dire que l'Afrique a la forme du revolver. Le Congo n'est pas à comparer au Burundi, au Rwanda, à la Tanzanie, encore moins à l'Ouganda. C'est un pays à partir duquel la troisième guerre peut intervenir. Parce que vous avez vu l'agitation chez tous les 9 présidents des pays qui entourent le Congo à propos justement de ce thème de notre débat. Donc le président Kabila a été correct devant le Congrès. 2 chambres réunies, il a dit qu'il ne postule pas. Le président Kabila devant la presse a même demandé qu'on remette la constitution à un des journalistes qui lui posait des questions au sujet de sa candidature. Mais c'est sans obliger Irung. Maintenant que nous en parlons, nous voulons faire notre problème, alors que le conseiller n'est pas au ciel. Il est sur la terre, il est dans le pays. Et Alia Tundu a répliqué à Akaj en disant, il ne faut pas fomenter des choses, parce que il est porte-parole de la majorité. Il a même reconnu que le chef d'État n'a jamais déclaré nulle part qu'il serait candidat aux prochaines séances électorales. Et que tous ceux qui parlent sont libres, selon l'article 22 et 23 de la Constitution, qui leur donne le pouvoir de s'exprimer librement. Mais quand on s'exprime librement, il faut éviter le feu. Nous sommes sur la fréquence de la paix, faisons en sorte qu'il y ait la paix. Donc donnons des motivations à la masse pour que la paix soit une culture pour les Congolais. On a déjà perdu beaucoup de gens. Mais ne luttons pas pour mettre le feu, mettre de l'huile dans le feu pour que même les élections n'aient pas lieu. Donc, le président Kabila est libre de se prononcer, il ne s'est jamais prononcé, et nous-mêmes quand nous en parlons sur la fréquence de la paix, nous n'avons pas qualité, mais nous devons émettre des avis qui favorisent la paix et la cohésion nationale. ne faisons pas en sorte qu'on sache, qu'on sente que tel est, appartient à un groupe, tel autre parle pour le compte du président Kabila.
Nico Faïmika.
Il est notre président, il est là, il n'a pas dit qu'il se présente, aller à Tundula confirmer sur la fréquence de la paix, il l'a dit à haute voix. Il a répliqué même contre notre frère Mirindi Chefer. Il a dit que Mirindi a parlé en tant que libre citoyen au nom de l'article 22 et 23 de la Constitution. Il s'est exprimé librement, donc son point de vue est individuel.
Voilà, merci Baba Isaac Alongi, Nico Faimbikai. Que faut-il au niveau de la classe politique, de la société civile à ce jour, pour que ce processus électoral soit réellement apaisé?
Moi, je pense que la majorité des gens ne veulent pas des élections.
Pourquoi?
Si les gens ne voulaient des élections, on n'assisterait pas à tous ces chimères. Lorsqu'on dit, par exemple, que nous étions la machine à tricher, à voler, mais on ne vous explique pas techniquement comment cette machine peut voler ou bien tricher. Pour un candidat sérieux, un parti politique qui a eu à préparer les élections, qui a aligné les témoins dans tous les bureaux de vote, parce que la machine ne remplace pas les urnes. Les urnes vont toujours exister. Après le vote, il y aura dépouillement.
Il nous faut déjà conclure, Nico
Faimbikai. Oui, je conclue. C'est à ma minute. Parce que il y a des pêcheurs à nos troubles qui font tuer mon peuple au nom de l'état de démocratie, mais qui veulent encore tirer les choses en longueur. À ce jour, quelle est la juridiction politique de l'État qui est saisie pour un troisième mandat? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a-t-il une démarche pour qu'on obtienne un troisième mandat? Il n'y a pas. Mais pourquoi se focaliser sur la préparation des élections et qu'au lieu de tabler sur des choses qui n'existent pas?
Merci. José Bohoto, que faut-il pour que le processus soit réellement apaisé?
Il faut que chacun joue son rôle, quoi. Son vrai rôle. Il faut pas qu'il y ait des gens qui soient là pour qui ont des agendas cachés et qui prennent pour prétexte l'organisation ou la non-organisation des élections pour sortir leurs agendas là. C'est juste ça le problème. Et que nos politiciens, que nos hommes politiques soient un tout petit peu corrects par rapport à cet électorat qu'ils veulent conquérir pour avoir le pouvoir, quoi.
Alors, il y a que les politiciens soient corrects. Oui. Il y a aussi cette question de respect de texte. Il y a par exemple l'accord de la Saint-Sylvestre qui est ballotté aujourd'hui dans tout le sens. Oui. Il y en a qui pensent que ça reste un fait privé qui n'engage pas la nation congolaise.
Non, mais écoutez, là, justement, je veux dire que les pêcheurs en eau trouble, comme l'a dit mon ami Nico Faimbikai ici, ils sont dans les deux cas en fait. C'est dans les deux cas en l'air. C'est pas seulement dans le camp de l'opposition, mais aussi dans le camp de la majorité. Et ça, il faut mettre à l'actif ou dans le sac de ces pêcheurs en eau trouble, en fait. Parce que logiquement, aujourd'hui, cet accord de Saint-Sylvestre, j'ai vu le président Kagame, le président
Lorenzo,
et puis même Emmanuel Macron, ils ont parlé de cet accord de Saint-Sylvestre. C'est l'accord qui nous tient aujourd'hui, qui fait office de référence en termes de l'avancement ou du recul de la démocratie dans notre pays, Alain. Donc, il faut pas qu'on mette cet accord-là entre parenthèses parce qu'on a des intérêts ou on trouve pas son compte. Voilà.
Merci Baba Isaac Alongi. En guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite du processus politique et même du processus électoral?
J'ai un avis. Je suis content de mes confrères qui sont avec vous là-bas. J'ai compris qu'ils sont partisans de la paix comme moi, mais il faut que la CENI accepte les observations lui faites par l'OIF d'abord, qu'il corrige, qu'il nettoie le fichier électoral, et que même si on peut voter une loi pour modifier la partie concernant les électeurs de la diaspora, qu'on le vote, qu'on fasse, qu'on termine, mais que tout se fasse en paix. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous verrez vous-même, Irung, que les uns et les autres ne sont pas pour les élections. La majorité, tout comme l'opposition.
Merci.
Puisque quand on termine un problème par la majorité, l'opposition crée un deuxième. Quand l'opposition termine un problème, la majorité crée un deuxième. Donc, ce sont les uns et les autres qui se jettent la balle, qui ne veulent pas des élections.
Merci.
Pour des raisons évidentes.
Merci Baba Isaac Kalonji. Merci Baba Isaac. Souffrez qu'on arrête, que je vous arrête par là. L'émission est terminée. Réalisation Donna Madimba, mise en onde Bob Landou, supervision Pelekipe Lamondo, présentation et coordination Alain Rung Mouchinj. Merci de votre attention. Au revoir et à la semaine prochaine pour un autre numéro.